9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Dans une autre vie, il a dirigé, oui, je dis bien, l'INA, et aussi Radio France. Désormais à la tête de la plateforme de podcast Magellan, Mathieu Gallet en propose une nouvelle version et s'inscrit à The Voice. Retourner son fauteuil coûtera 7 euros par mois. Bonjour Mathieu Gallet.
Bonjour Pascal Clark.
Vous doublez la sortie de la nouvelle version de Magellan dont on va parler, d'un essai paru aux éditions Débat Public intitulé « Le nouveau pouvoir de la voix, comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale ». C'est votre cas au quotidien, Mathieu Gallet, vous parlez beaucoup à vos assistants vocaux.
Alors moi je suis pas très assistant vocaux, mais heureusement dans ce livre il n'y a pas que les assistants vocaux et ce n'est pas une ode aux assistants vocaux. J'explique en fait dans cet essai comment la voix revient dans nos vies, alors à travers les technologies comme celle-ci, comme le commerce conversationnel. Si vous avez vu
que
Carrefour a fait un accord avec l'assistant Google, aujourd'hui vous pouvez commander vos courses en parlant à votre assistant et ça vous les livre directement. C'est aussi des choses beaucoup plus simples comme les notes vocales. Vous savez, ces SMS audio, les jeunes en raffolent, mais il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les personnes qui sont parfois les moins adeptes des nouvelles technologies. Je pense aux personnes âgées, ça permet effectivement, moi ma grand-mère qui aujourd'hui ne voit plus quasiment, elle ne peut plus envoyer de SMS. 87 ans.
Ah oui.
C'était une grosse lectrice et le fait de ne plus avoir la vue, elle ne peut plus envoyer de SMS, elle fait des notes vocales, elle fait ses SMS audio. Donc ça permet de maintenir un lien, ça permet de maintenir une insertion, j'ai envie de dire, dans son environnement, dans la société.
Et alors comment c'est venu et pourquoi c'est venu? Parce que c'est la thèse de votre livre, plus le temps passe, écrivez-vous, plus nous parlons et moins nous touchons. Est-ce que cette évolution platonique est une bonne nouvelle?
Alors je pense qu'en plus avec la crise sanitaire du Covid qu'on a tous connu, surtout faut faire attention de plus toucher les choses. Je pense que oui, l'audio et la voix a un bel avenir devant elle. Ça s'est répandu tout au long de ces dernières années. Moi, j'avais fait un voyage quand j'étais à Radio France avec mon équipe dans la Silicon Valley début 2017. Et on est allé à Seattle aussi voir Amazon. Et c'est là où on a vu les premiers Alexa, donc les premiers assistants personnels.
Qui ont des grandes oreilles au passage.
Qui ont aussi des grandes oreilles.
Qui nous écoutent.
Qui nous écoutent.
Donc c'est pas non plus la panacée.
Qui savent exactement ce qu'on fait.
Ouais.
Et c'est à la fois quelque chose d'assez fascinant et en même temps quelque chose d'un peu inquiétant, notamment je pense aussi pour des radios comme aujourd'hui on est à la radio. C'est ce que j'explique aussi dans le livre. Je pense que les plateformes digitales qui connaissent tout grâce aux data, grâce aux données de leurs utilisateurs, donc toutes nos habitudes de consommation, en face, vous avez des radios qui, elles, sont mesurées tous les 2-3 mois par médiamétrie. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire quand vous devez valoriser la publicité qui fait vivre une radio commerciale comme Europe 1 en face d'une plateforme comme Spotify qui rend ses podcasts gratuits mais qui fait de la publicité aussi, Spotify connaît précisément ce que vous avez écouté et ce qu'il va falloir vous pousser comme publicité.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on connaisse les audiences radio immédiatement comme ça se passe à la télé? C'est aussi une sauvegarde pour la radio de ne pas savoir à la minute près ce qui fonctionne, non?
Alors c'est une sauvegarde, je pense, pour l'auditeur qui peut se dire au moins on ne sait pas si j'écoute Europe 1, RMC ou Radio Courtoisie.
Je pense que c'est quand même là.
Non, mais voilà, j'exagère, je force le trait. Mais pour les radios qui aujourd'hui, en fait, sont un peu dans le flou sur la monétisation de leur audience, c'est un vrai danger. Et je pense que Spotify peut être à la radio ce que Netflix est déjà aux télévisions.
Alors, trop d'écran, hein, c'est ça votre constat, Mathieu Gallet, avec les dangers du visuel. Vous écrivez fort justement « L'image fige l'imaginaire ». Pourquoi alors avoir introduit les caméras dans les studios de Radio France quand vous dirigiez la maison? C'était pour satisfaire les GAFAM, les géants du numérique?
Alors c'était surtout pour utiliser les réseaux sociaux comme vecteur de transmission de tout ce qui se dit à la radio. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie du public qui nous écoute en direct ce matin. Et puis il y a une partie qui ne nous aura pas écouté, mais qui va découvrir notre entretien à travers le compte Twitter d'Europe 1, à travers les différents réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que de
mais
mettre
du coup,
les
vous
caméras...
avez un peu flingué l'imaginaire.
Alors, c'est vrai que c'est un peu tué l'imaginaire. Mm. Moi, je sais que quand j'étais jeune étudiant, que j'écoutais Pascal Clark sur France Inter, j'imaginais...
Oh, ça va, vous allez
j'imaginais
dire que j'ai 100 ans
Pascal
aussi,
Clark. Maintenant, voilà, je sais qui est Pascal Clark.
La voix, c'est aussi la voix intérieure, écrivez-vous. Petite confidence dans ce livre, le fameux bureau de France, de Radio France, dont on vous a reproché d'avoir fait rénover le décor en bois de palissandre, ce qui coûtait un bras, et ce, en pleine annonce de plan social dans la maison. Eh bien, vous aviez eu un pressentiment, c'est votre petite confidence, vous ne vouliez pas l'occuper, ce bureau.
Oui, je parle aussi de cette voix intérieure qui est l'intuition, au fond. Et c'est vrai qu'en arrivant à Radio France en 2014, mon intuition était de ne pas intégrer ce bureau historique, qui est classé d'ailleurs depuis, comme un signal pour dire, voilà, en fait, on ouvre les portes et les fenêtres. Voilà. Et je n'ai pas voulu y aller. Et on m'a dit, dans mon entourage, non, tu arrives, tu as 37 ans, tu dois occuper ce lieu de pouvoir, parce que le bureau, c'est l'incarnation du pouvoir. Et j'aurais mieux fait d'écouter ma petite voix intérieure et suivre...
Vous y seriez peut-être encore, du coup ?
Non, parce que finalement, c'est pas ça qu'on m'a reproché. Mais c'est vrai que symboliquement, le mal est fait.
On va parler de Magellan qui évolue complètement. C'est votre plateforme de podcast. Alors, j'ai écouté votre dialogue avec votre associé Arthur Perticoz. Et j'ai compris un mot sur deux.
Il faut une vision. Pourquoi nous existons ?
Parce que l'on veut proposer une expérience d'écoute globale. Ce que l'on veut, c'est que les gens vivent une vraie complémentarité, une complémentarité indolore entre ces trois pans. Le contenu, ce qu'on arrive à partager par nos programmes. L'application, cet objet digital qui permet de vivre notre expérience. Et notre discours, notre communication, notre manière d'exprimer à quoi on sert.
Alors, heureusement que vous êtes là ce matin, Mathieu Gallet. Vous allez faire la traduction simultanée et nous expliquer. Ce sera après ça sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Mathieu Gallet a un point commun avec Emmanuel Macron, il se réinvente. Désormais disponible la deuxième version de votre plateforme de podcast Magellan. Pourquoi la première a-t-elle échoué, la première version ?
Alors, ce n'est pas un échec, c'est une courbe d'apprentissage entre ce qu'on a lancé l'année dernière, qui était une plateforme à la fois d'agrégation de contenus gratuits et de production de contenus originaux avec une monétisation via l'abonnement pour les seuls contenus originaux, puisqu'on ne gagnait rien sur la partie gratuite. Et ce qu'on a vu au bout de 6 mois d'exploitation de l'app Magellan, c'est qu'en fait, le public venait de plus en plus pour les contenus originaux payants. Ça tombe bien puisque c'est les seuls qui nous font vivre. Et que finalement, le replay de la radio, les podcasts gratuits créent moins d'engagement, moins de fidélité de la part des utilisateurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la fidélité. Et donc, on a simplifié le modèle et on a aussi simplifié la ligne éditoriale.
Oui, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas juste une partie payante, une partie gratuite.
C'était une partie payante, une partie gratuite. Oui, mais... Et puis, c'était une ligne éditoriale qui était, au fond, très large, puisqu'on a fait de la fiction, on a fait du documentaire, on a fait du talk, on a fait des programmes pour enfants, on a fait même de la méditation. Et en fait, face à ces divers genres audio, on a vu que tout ce qui était plus dans le domaine de l'inspiration, de la transmission, de savoir, créer plus d'engagement, plus de fidélité. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi
c'est
de
pour
se
ça
spécialiser.
Il y a cette deuxième version.
Exactement.
En même temps, on peut dire que si la première avait fonctionné, vous n'auriez peut-être pas évolué. Et puis, c'est pas grave.
Sur la partie éditoriale, il fallait évoluer parce que je pense que quand on est un média, on a besoin d'être une marque, on a besoin d'avoir une identité à soi, un ADN. Et on avait besoin de développer cet ADN chez Magellan.
Et puis, vous avez quand même essuyé des critiques quand vous avez agrégé, c'est-à-dire regroupé les podcasts des autres sans parfois demander d'autorisation. Mm-hmm. C'était une erreur ou...
Non, parce que c'est en fait un sujet qui était juridiquement, contrairement à ce que certains ou certaines ont voulu faire croire, était tout à fait bordé. C'était aujourd'hui, je pense, toujours une bonne idée. On a besoin, vous savez, une start-up, on a levé de l'argent, on a levé 10 millions d'euros, mais
on
doit,
revenir,
on doit se spécialiser très vite.
Oui, C'est une nécessité.
On peut pas être en concurrence avec des géants internationaux. Je parlais tout à l'heure de Spotify. Ce serait folie que de se mettre en face de géants qui coûtent 50 milliards de dollars en bourse.
Sauf qu'à un moment donné, vous l'avez imaginé, Goup.
On va
être en concurrence avec eux, au départ.
L'ambition. En concurrence, je ne sais pas, bien sûr, il faut toujours très ambitieux. Mais en tout cas, il faut se penser comme une offre complémentaire face à des géants internationaux.
Alors donc, place au podcast Maison, consacré au développement personnel, au partage d'expériences. Tiens, au passage, j'attends celui où vous m'apprenez à lever 10 millions d'euros, hein, Mathieu Gallet. J'espère que vous allez en faire un podcast.
Alors peut-être qu'on fera effectivement un podcast avec, avec des fonds d'investissement, avec des gens dont c'est le métier. C'est vrai qu'on est quand même là dans un apprentissage plus inspirationnel aujourd'hui sur Magellan, puisqu'on a des masterclass avec Michel Hazanavicius.
Je plaisantais un petit peu,
voilà,
hein, c'était une façon de dire,
Pic,
mais comment
on
faites-vous
pas
pour lever
chose de,
10
de...
millions d'euros ? Vous voyez, c'est un truc qui me dépasse.
Comment on fait ? C'est beaucoup de travail. Contrairement à ce que les gens ont pu imaginer, on ne lève pas 10 millions d'euros comme ça.
Déjà,
dans le
claquement lever
de
l'argent, je ne comprends pas bien.
Oui, bah en fait, c'est de se faire financer une entreprise et faire financer une croissance, puisqu'aujourd'hui, ces 10 millions d'euros, ils financent à la fois la technologie, puisque Magellan, c'est une plateforme technologique, toute la technologie est propriétaire, mais c'est aussi un studio de production, puisque nous développons tous nos programmes en interne. Donc, c'est un catalogue de création originale qui est financé par la levée.
Alors, des voix qui racontent, des masterclass. On va écouter un extrait. Je donne quelques exemples. Il y a le réalisateur Michel Hazanavicius, l'éditeur de presse Franck Hannez ou la journaliste Marion von Rettergem. Petit aperçu. Écoutez, on a choisi le réalisateur.
Bonjour, je suis Michel Hazanavicius, je suis réalisateur de films comme OSS 117 ou The Artist, et vous écoutez ma masterclass, figurez-vous, sur Magellan.
Michel Hazanavicius.
Je ne sais pas si ça vous est interdit, mais ça vous est totalement étranger, quoi. Et ça vous semble impossible, et vous avez toujours l'impression de dire « mais moi je connais personne, tout ça c'est pas pour moi, et tout ça ». Et donc, la chance m'a amené à ce que le truc soit possible. Il y a un moment où vous vous décontractez et encore une fois, vous pardonnez, quoi. Bon, peut-être avec le fait d'avoir 5 Oscars aussi, je sais pas, mais...
Voilà, au moins, maintenant c'est clair, il y a un positionnement. L'un de vos mots-clés, j'ai remarqué, Mathieu Gallet, c'est inspirant. Est-ce que vous pensez vraiment que l'expérience se transmet ?
Alors, l'expérience, chacun a la sienne. En revanche... Le modèle, l'expertise aussi, sont effectivement des savoirs qui peuvent inspirer et qui peuvent se transmettre. On a un programme sur un domaine qui n'a rien à voir, ma GPA pas à pas. C'est un père célibataire, Rodolphe Blavy, qui nous explique comment il l'a développé. Et il est allé faire une GPA aux États-Unis, il a 2 enfants aujourd'hui. Moi, c'est un programme, par exemple, qui m'a vraiment... fait considérer, regarder cette problématique sociétale de la GPA d'un tout autre regard.
Rapidement, qui vous a inspiré, vous, dans votre courte vie ?
Plus si courte, des chefs d'orchestre, parce que je reste toujours très mélomane, et puis des personnalités du monde des affaires. Il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Maurice Lévy, le patron de Publicis. Voilà, c'est parti des gens qui sont des sources d'inspiration pour moi.
Merci beaucoup. Magellan, nouvelle version disponible. 7 euros par mois, c'est payant maintenant. Et votre livre, Le Nouveau Pouvoir de la Voix. Merci Mathieu Gallet d'être passé par Culture Média. Et j'en profite pour souhaiter une bonne journée à tout le monde, très inspirante.